Il est 8h.
Nous sommes en mesure de livrer 10 millions d'autotests par jour à la France via avion cargo à travers un stock qui se trouve à Rotterdam.
Ils n'attendent qu'à être autorisés, vendus et utilisés. Les autotests Covid restent dans des hangars. L'enquête d'Europe 1 sur ce moyen de dépistage rapide, utilisé massivement ailleurs, est bloquée en France. L'insertion par l'emploi, ça marche pour les personnes atteintes d'autisme. Une rencontre dans ce journal. Témoignage d'un jeune homme qui impressionne son employeur. Et puis, les sculpteurs ont leur atelier, les chefs ont leur cuisine. Patrick Roger, lui, sculpte le chocolat. C'est dans son laboratoire qu'on va le rejoindre ce matin. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Avez-vous tout compris sur les déplacements interrégionaux, la tolérance ce week-end de Pâques, la règle des 10 km? Alors avant de prendre la route, soyez à l'écoute. Le ministre en charge des transports est notre invité. Rendez-vous à 8h15.
Et vous lui posez des questions sur le hashtag Europe 1. 8h01, très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il s'agit de changer d'échelle, de pouvoir dépister le Covid, pas seulement quand on a un doute, mais de façon régulière, pour éteindre net tout foyer épidémique. Les autotests seraient un outil bien plus massif encore que les 3 millions de dépistages effectués chaque semaine en France. Mais ils ne sont pas autorisés, ce qui relèverait du scandale, selon les mots de l'épidémiologiste Martin Blachier hier sur Europe 1.
Aujourd'hui, on a le ministre de la Santé qui, en France, bloque. Il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était pas sûr. Il a clairement donné sa position, donc on sait qu'il bloque aujourd'hui. On sait que c'est lui.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Ces propos nous ont donné envie de comprendre ce qui bloque. Pourquoi ces autotests ne sont toujours pas autorisés en France ?
Alors, il y a plusieurs étapes de validation et aujourd'hui, la balle est dans le camp du ministère de la Santé. Première étape, la HAS, la Haute Autorité de Santé. Cela fait 15 jours qu'elle a donné son feu vert. Une recommandation très claire, ces autotests sont pour toutes les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à une grande échelle, dans les écoles par exemple, soit dans la sphère privée, par exemple quand vous irez rencontrer des proches pour un dîner ou une autre occasion. Donc la Haute Autorité de Santé a dit oui. Deuxième étape, l'Agence de sécurité du médicament, elle doit rendre une réponse imminente, mais elle ne va pas juger l'efficacité des autotests, mais leur conformité. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un problème réglementaire. Donc c'est bel et bien au ministère que ça freine.
Vous dites que ça freine, Victor. Alors pourquoi cette réticence ?
D'abord, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré que ces autotests n'étaient pas simples à utiliser. En réalité, il faut juste enfoncer l'écouvillon à 2,5 cm dans votre narine et le résultat apparaît 20 minutes plus tard. Des tests fiables à au moins 80% selon la Haute Autorité de Santé. Une fiabilité que remettent en question les équipes d'Olivier Véran. Selon nos informations, le gouvernement va quand même lancer une expérimentation. Il ne donne pas de date précise, on me dit seulement dans les prochaines semaines pour voir l'utilité de ces autotests.
Oui, donc on est d'accord que ce n'est pas un problème, par exemple, de remboursement par la Sécu.
Non, absolument pas. Cette question n'est pas à l'ordre du jour puisqu'il n'y a même pas encore d'expérimentation.
Et pourtant, s'il y avait un feu vert, ces autotests pourraient être déployés rapidement, Victor ?
Oui, très rapidement. La grande distribution est dans les starting blocks. Le groupe Carrefour en avait même précommandé 1 million et en a déjà reçu 20 000 qui aujourd'hui dorment dans des hangars. Plusieurs laboratoires que j'ai contactés hier m'ont assuré qu'ils pouvaient en produire et en livrer des millions à la France. Nicolas Contasso est directeur de la communication chez Innova Medical Group Europe. Son entreprise a envoyé une offre très concrète à l'Élysée.
Nous sommes en mesure de livrer 10 millions d'autotests par jour à la France. Nous avons la capacité de production ainsi que la capacité logistique via avion cargo à travers un stock qui se trouve à Rotterdam.
Pour mesurer si on est à la traîne, sachez qu'à titre de comparaison, ce même groupe a passé un contrat d'1,2 milliard d'autotests avec l'Angleterre. Là-bas, depuis le début du mois, les écoliers doivent se tester plusieurs fois par semaine. Même système en Autriche où 5 kits gratuits sont distribués à chaque habitant depuis un mois. Les autotests sont aussi autorisés et déployés en Allemagne. En France, vous l'avez compris, on en est encore très loin.
Plus d'un milliard en Angleterre, zéro en France. Enquête Europe 1 signée Victor Delande.
À chaque confinement, ces exceptions, les crèches étant fermées pour 3 semaines. Question, les assistantes maternelles qui sont 280 000 en France, peuvent-elles continuer leur activité? La réponse sera donnée dans la journée, selon Matignon.
En attendant, pour les enfants de soignants, les mairies sont censées mettre en place des solutions de garde. Mais qui met-on exactement dans la catégorie soignant?
Eh bien, on s'interroge encore, par exemple, dans la commune d'Ilkirch-Grafenstaden, c'est près de Strasbourg. Arthur Mbaché.
prioritaire ou pas? C'est la question. Trois des quatre préparatrices de la pharmacie de la Licorne sont mamans. Myriam a contacté sa mairie, Dilkirch Grafenstaden, pour savoir si oui ou non ses deux filles auraient droit à la garderie spéciale la semaine prochaine.
J'ai appelé avant, quand j'étais en pause, et elle me disait que nous, le fait qu'on travaille dans une pharmacie, on n'est pas prioritaire. C'est d'abord les enfants des médecins, les enfants des infirmières, les enfants de... j'ai personne en fait.
Le maire d'Ilkirch Grafenstaden, Thibaut Philips, se posait encore pas mal de questions hier quand il m'a reçu dans son bureau. Pourtant, c'était juste après une visio avec les représentants de l'État.
On attend la liste précise et ça, la préfète n'avait pas encore la liste précise. Alors du coup, elle était un petit peu embêtée et puisqu'on avait à la fois la préfète dans cette réunion, mais aussi la rectrice d'académie. Et donc les deux attendaient les consignes des ministères. Mais on attend de savoir si le dispositif est étendu aux enfants de pompiers, de policiers, de professions qui continuent à devoir assurer des missions de service public.
Dans la commune voisine de Strasbourg, la ville a décidé de ne pas attendre les décrets de tel ou tel ministère et d'inclure dès maintenant tous les personnels de santé, les pompiers et les policiers.
Et on reste dans votre région, Arthur Mbaché, avec cette nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques instants. L'édition 2021 des Eurockéennes de Belfort est annulée. Nouvelle conséquence, bien sûr, de cette crise sanitaire. Vous les croisez, si vous prenez le volant ce matin, des agriculteurs manifestent sur les routes, notamment au péage de Saint-Arnoult en Yvelines, sur l'A10, nous y étions à 7h, mais aussi sur l'A6, au niveau de Villabé dans l'Essonne, ou encore sur la N12, au niveau de Molette. Ils s'en prennent aux futures contraintes imposées pour avoir droit aux aides européennes de la politique agricole commune, la PAC.
Et à l'aube du week-end de Pâques et de 3 semaines d'école fermée, vous le savez, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, répond à vos questions. Ça se passe sur le hashtag Europe 1 sur Twitter. C'est l'invité de Sania Mabrouk à 8h15.
Ce vendredi marque la journée internationale de sensibilisation à l'autisme, un trouble qui touche 700 000 Français, 1% de la population, mais qui reste mal connu, d'où une grande exclusion, notamment dans le monde du travail. Alors ce matin, nous nous penchons sur un parcours enthousiasmant, vous allez l'entendre. Pour Europe 1, Caroline Baudry a rencontré Maxime en stage dans une entreprise automobile.
Le fait d'être canalisé par le travail, ça va faire une sorte de bulle qui réduit mes stéréotypies. C'est comme des tics, en fait, comme se gratter la tête.
Même en télétravail, Maxime, un autiste Asperger de 25 ans, arrive à créer sa bulle, chemise impeccable, les yeux rivés sur ses tableaux Excel.
Vous avez des onglets pour les commandes, des onglets pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est pas une passion en tant que telle, parce que ma passion, comme je dis, c'est l'économie, le droit, la politique, mais ça m'aide à comprendre mes passions, donc oui, ça m'intéresse.
Des passions obsessionnelles, un parcours scolaire très atypique, conséquence de son syndrome autistique qui n'a pas effrayé Clarisse, sa tutrice au bout du fil.
Je peux expliquer des choses qui me paraissent simples. Maxime a besoin de plus de temps, plus d'explications. Il y a des choses pour lesquelles Maxime, la commande qu'on a traitée il y a 3 jours, il va reconnaître le numéro de la commande, le montant de la commande. C'est une force que lui a et que moi j'ai pas.
Non mais je me reconnais bien. Quand j'étais petit à l'école, les trucs où tout le monde y arrive, moi j'y arrive pas. Les trucs où personne y arrive, moi j'y arrive.
Tu m'impressionnes toujours, Maxime.
Pourquoi ?
J'ai trouvé ça chouette ce que tu disais.
Oui.
Maxime, lui, a trouvé son domaine, le commercial et son objectif.
Avoir une vie comme tout le monde, donc stable. Avoir un CDI et qui dure longtemps.
Une vie stable et une vie sociale comme celle qu'il développe de plus en plus grâce à son travail.
Caroline Baudry.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Elle rackette ses propres soldats, les secrets de la junte birmane pour se financer.
Et puis du chocolat qui se déguste d'abord avec les yeux, les sculptures de Patrick Roger. Il va nous livrer ses recettes.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Après 2 mois de répression en Birmanie, il aura fallu 48 heures de négociations à l'ONU pour se mettre d'accord, avec la Chine en particulier. Sur les quelques mots que voici, le Conseil de sécurité condamne fermement la mort de centaines de civils. Pas de sanctions financières donc pour l'instant, mais la junte militaire craint tout de même de voir ses revenus chuter. Alors voici comment elle remplit ses caisses. Jean-Sébastien Soldaini.
La junte navigue entre commerce lucratif et petits arrangements. La vente de jade et de bois exotiques complète le soutien au trafic de drogue. Mais les militaires ne s'arrêtent pas là, ils cherchent des devises étrangères. Récemment, ils ont tenté de vendre pour 140 millions de dollars d'avoir, sans trop de succès. Seul un acheteur s'est manifesté pour un petit million. Tous les moyens sont bons. Sophie Boisseau-Durocher, spécialiste de la Birmanie à l'IFRI, n'exclut pas que la junte détourne l'aide internationale.
Le FMI a versé 300 millions de dollars pour la lutte anti-Covid quelques jours avant le coup d'État. Donc, ce sont 300 millions de dollars probablement détournés à des fins d'achat d'armes létales pour acheter des outils d'intelligence artificielle pour contrôler les populations et à des fins de répression.
Le secret de la junte, c'est l'opacité des sociétés qu'elle gère. Ça permet d'encaisser les importants revenus du pétrole. Ça sert aussi à faire les fonds de tiroir. De simples soldats sont parfois forcés à verser 10% de leur maigre salaire en échange d'actions dans ces sociétés, une forme de racket qui prouve que pour la junte, ce n'est pas chaque dollar qui compte, mais bien le moindre centime.
Jean-Sébastien Soldaini.
7 kilos par personne et par an. Alors si vous n'avez pas encore consommé cette masse de chocolat, c'est une moyenne hein, bien sûr, vous allez peut-être vous rattraper ce week-end.
Oui, à deux jours de Pâques et des chasses aux œufs, un artiste du chocolat plus qu'un artisan, Patrick Roger, livre ses secrets à Europe 1 et à Pierre Herbulot.
Des chariots remplis de poussins en chocolat au lait, de hérissons en chocolat noir. 40 000 gourmandises comme celle-ci doivent sortir du laboratoire de Patrick Roger d'ici dimanche.
C'est juste extraordinairement bon.
Comme ces œufs qu'il façonne à l'aide d'un moule, d'un pinceau et d'un robinet à chocolat.
Ça, c'est pour pas qu'il y ait de bulles. Après, on met une deuxième couche pour avoir l'épaisseur et que ce soit suffisamment solide pour les garnir avec des pralinés, des gendujas, ça peut être pâte d'amande en temps normal, caramel, plein de choses.
Un minutieux travail d'artisan. D'artiste même, dans la pièce d'à côté. La lame du couteau fait sauter des copeaux cacaotés d'un bloc de 200 kilos. Le chocolatier s'est transformé en sculpteur.
Je taille dedans, puis il va falloir aller sortir la forme. Les sculpteurs prennent en général de la terre, de la glaise, du plâtre, n'importe. Moi, mon médium, c'est cette matière.
Un Teddy Riner surréaliste comme un orang-outan plus vrai que nature, il imagine tout.
Mais je suis vraiment cinglé, mais c'est ça qui est bien.
Son plus grand rêve, exposer ses œuvres à la Fondation Cartier. Chez Patrick Roger, encore plus qu'ailleurs, le chocolat se mange avant tout avec les yeux.
C'est fou, même le
timbre
de la voix.
Et avec les oreilles.
Complètement, et le timbre de la voix de Patrick Roger est déjà gourmand, c'est complètement fou.
7 kilos par an et par personne. Vous en êtes à combien, vous, François?
17, 70, oui. Bref.
Enfin, pas 7 kilos de Patrick Roger par an. Non, ça, c'est pour les belles occasions, évidemment. Magnifique, ce reportage. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité, le ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué en charge des Transports.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous deux.
Alors, beaucoup de questions à vous poser, très concrètes. Une tolérance sera donc accordée en ce week-end de Pâques pour ceux qui souhaitent changer de région et y rester pour le confinement, sans aucune restriction de déplacement partout en France, c'est possible?
Alors, pour être le plus clair possible, on a une règle qui est relativement simple, c'est qu'en dessous de 10 km, les déplacements ne nécessitent pas d'attestation. Et au-delà de 10 km, vous devez avoir à la fois une attestation et un motif dérogatoire. Ça s'applique dès demain sur la France entière, ça s'applique déjà dans les 19 départements qui sont concernés. Pour le week-end de Pâques, lundi inclus, et parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de familles vont vouloir descendre leurs enfants chez leurs grands-parents, par exemple, et que ces déplacements sont légitimes, nous appliquons une tolérance, donc samedi, dimanche, lundi, de manière à ce que ces déplacements légitimes puissent se faire et se faire en bon ordre. Et à compter de mardi matin, il y aura des contrôles beaucoup plus systématiques sur le motif de déplacement.
Et quand vous dites tolérance, ça veut dire qu'il n'y aura pas, pendant ce week-end de Pâques, des contrôles sur les déplacements, c'est bien cela?
Alors, des contrôles, il en existe toujours et en existera toujours, notamment par exemple dans les transports sur le port du masque. Vous savez que nous avons habilité tous les agents de la SNCF, de la RATP pour contrôler. Il y aura des contrôles sur le protocole sanitaire, mais sur le motif de déplacement, il y a cette tolérance pour pouvoir se déplacer jusqu'à lundi inclus, par exemple pour amener ses enfants chez ses grands-parents.
Est-ce que vous avez, Jean-Baptiste Djebbari, des chiffres sur ce départ? Certains parlent d'un exode pour la SNCF, on dit qu'il y aurait un boom des réservations.
Non, ça a été moins fort, par exemple, qu'à l'occasion du deuxième déconfinement. On a eu 25% de réservations en plus, 130 000 réservations, très centrées d'ailleurs au moment de l'allocution présidentielle, mais on a eu aussi 40 000 annulations. Du fait de la restructuration des vacances, de l'alignement des vacances sur les mêmes périodes. Et au total, je regardais ça ce matin, sur les chiffres de la SNCF pour le mois d'avril, on a moins 65% de réservations. Ce qui prouve que les Français vont beaucoup moins se déplacer pendant le mois d'avril, ce qui est aussi un début recherché.
Alors s'il y a tolérance qui est de mise ce week-end pour les déplacements interrégionaux, précisons-le, est-ce qu'il y a aussi une tolérance finalement pour le rayon des 10 km dans son propre département? Ce serait logique.
En tout cas, il y aura du pragmatisme et du bon sens. Je prends un exemple.
On en a besoin du bon sens.
Oui, on va essayer de l'appliquer. Ouais. Les 10 km, ça vous permet effectivement d'aller faire la majeure partie de vos déplacements de proximité, de vos courses de proximité. Mais quand vous êtes dans le Limousin, à Saint-Laurent-sur-Gorre par exemple, et que vous devez aller acheter du matériel de bricolage ou un PC pour vos enfants, il peut arriver que vous fassiez 13-14 km. Pour aller à Aix-sur-Vienne, par exemple. Et ça, c'est permis, puisque c'est un besoin que le commerce de proximité se trouve à plus de 10 km. Vous pouvez donc vous y rendre.
J'ai bien compris, mais attendez, le bon sens voudrait que si on tolère les déplacements interrégionaux samedi-dimanche, la règle des 10 km autour de chez soi ne s'applique pas.
Non, alors je le redis, mais la tolérance pour les déplacements interrégionaux pour le week-end de Pâques, c'est pour la situation bien précise, mais néanmoins réelle, de toutes ces familles qui vont devoir s'organiser pour le télétravail, pour la garde d'enfants. Mm-hmm. Et je le dis encore, ces déplacements sont légitimes. Ils se passeront une fois pour cette période de 4 semaines. Et nous avons souhaité les organiser plutôt que les subir. Et la raison de cette tolérance, elle est spécifiquement pour ce cas-là. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une règle pour le reste, les 10 km, qui s'applique déjà depuis plusieurs semaines, hein, dans 19 départements français, qui va s'appliquer à la France entière. Et la règle a la vocation
à s'appliquer. Et qui va s'appliquer aussi, Jean-Baptiste Djebari, aux départements ruraux. Vous êtes un connaisseur de nos territoires. Vous savez très bien que cette règle des 10 km, parfois, elle ne veut rien dire dans les départements ruraux, où le premier supermarché peut être à 15, à 20 km.
Raison pour laquelle, je l'ai dit, pragmatisme et bon sens. Il y avait là, dans les règles précédentes, la règle des 30 km. Alors, je ne veux pas rendre le propos confus, mais l'idée, c'était de dire ça. De dire que quand vous avez un centre commercial à 15 km et que vous n'avez rien d'autre à côté de chez vous, quand vous avez un magasin de bricolage ou un magasin de sport ou un magasin d'informatique à 15 km, que vous avez besoin de vous y rendre, vous pouvez vous y rendre. Et évidemment, toute règle, si on cherche, souffre d'exceptions. Et l'idée, c'est évidemment de pratiquer du bon sens pour ces 4 prochaines semaines.
Du bon sens, on espère.
Du bon sens et du pragmatisme.
De la tolérance, en tous les cas, on l'a compris ce week-end de Pâques.
Et de la responsabilité individuelle.
Dans le cadre des déplacements interrégionaux. Mais si on vous a bien compris, il sera toujours possible de se déplacer ensuite pour les gardes d'enfants, pour aller chercher, accompagner un enfant, son enfant.
Mais je prends un exemple. La réponse est plutôt oui. Je prends un exemple.
Plutôt ou complètement ?
Ouais, je prends le bon exemple. Oui. Le bon exemple, c'est que vous avez vos grands-parents qui montent, par exemple, de Toulouse ou du Limousin à Paris ce week-end pour chercher vos enfants. Soit les garder chez vous, soit les ramener à Toulouse. Ça, c'est un déplacement légitime. On n'encourage pas à ce que ce type de déplacement se reproduise 4 fois dans la semaine ou même 4 fois dans le mois. Dites, faites-le
vous
une fois.
Vous n'encouragez pas, mais vous n'interdisez. Il n'y aura pas de sanctions et de contrôles.
C'est la tolérance que nous posons. Et vous savez, comme dans toute stratégie, d'abord, il y a les règles, il faut qu'elles soient respectées. Et puis, il y a l'adhésion aux règles, il y a la responsabilité individuelle. Les Français ont compris que ce que nous essayons de faire, c'est d'agir fort, sur un temps relativement réduit, pour sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire.
Vous
et
dites
donc, ça renvoie aussi à la responsabilité
agir
de chacun.
Fort et responsabilité, mais quand tous ceux qui quittent un département avec une forte tension épidémique pour aller vers un département très peu touché, vous les encouragez à faire circuler le virus ?
Non, d'abord, les départements très peu touchés, il y en a de moins en moins. Vous savez que le virus circule de façon très dynamique et de façon de plus en plus uniforme.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut peut-être encourager ces déplacements. C'est ça ce qu'on ne comprend pas, monsieur le ministre. C'est ce week-end de Pâques, certains vont aller dans des départements peu touchés.
Si vous cherchez à me dire que quand il y a une règle posée, certains essaient de la contourner, c'est la nature humaine. Et donc c'est pour ça que nous appelons aussi à la responsabilité de chacun. En disant que les règles, notamment le couvre-feu et que les contrôles, sur les motifs, par exemple, des 10 km, vont s'appliquer partout pour essayer, tant que faire se peut, de limiter ceux qui voudraient contourner les règles. Mais il y aura des contrôles. Nous avons discuté de tout cela cette semaine avec Gérald Darmanin, qui va mobiliser beaucoup de forces de sécurité intérieure pour justement faire respecter ces règles sur les rassemblements publics, sur la consommation d'alcool dans les lieux publics. Bref, toutes les règles qui ont été annoncées par le Premier ministre hier.
Que de règles, oui.
Mais c'est une situation qui n'est agréable pour personne, dans aucun pays
évidemment,
du monde.
C'est pour ça qu'on essaie d'être clair ce matin.
Exactement. Et
autre
exemple, nous essayons de sortir collectivement.
Et autre exemple, à partir du 6 avril, Jean-Baptiste Djebari, on ne peut pas donc se déplacer entre régions, sauf motif impérieux précis. Mais est-ce qu'on peut se rendre ou voyager dans un autre pays européen ?
Alors, le principe qui s'applique aujourd'hui, hein, c'est que vous pouvez vous déplacer dans un autre pays européen avec un test PCR. Alors vous savez qu'aujourd'hui, les pays européens mettent de plus en plus de restrictions. Je prends le cas de l'Italie, vous voulez vous rendre en Italie, vous avez une quarantaine obligatoire à l'arrivée, ça renvoie à la circulation très active du virus partout en Europe.
Mais concrètement, je peux me déplacer pour des vacances dans un pays européen,
c'est un cas théorique qui existe.
Dans une autre région en France.
Il n'est pas encore tranché, on va en discuter ce matin. Donc c'est un cas théorique qui existe déjà. Hein,
mais nous, on est dans la pratique.
Et bien, en pratique, il est très peu utilisé. On a du voyage d'affaires, mais on a très peu de voyages touristiques. Alors évidemment, il y a des caméras qui parfois montent des jeunes qui vont faire leur week-end à Barcelone, mais c'est une En pratique, très peu.
D'accord. Mais un auditeur qui nous écoute ce matin, qui veut partir en vacances dans un autre pays européen, il le fait.
D'abord,
il est dans la pratique.
On ne recommande pas. On va en discuter ce matin. Et il y a très peu d'offres de transport pour ce faire. Et par ailleurs, je le dis, de plus en plus de pays européens appliquent des restrictions, notamment des quarantaines à l'arrivée. Donc, en pratique, cette possibilité est de moins en moins disponible.
Alors la lumière au bout du tunnel, on l'espère, c'est la vaccination, si elle monte en puissance. Il y a certaines professions, Jean-Baptiste Gébaré, comme les enseignants, qui pourraient être prioritaires. Mais qu'en est-il des personnels dans les transports, les trains, les avions? Plusieurs fédérations de transport réclament que leurs salariés, à juste raison, fassent partie des catégories prioritaires. Que leur répondez-vous ce matin?
Je leur ai répondu hier, puisque je les ai réunis, l'ensemble des secteurs des transports, le transport routier de marchandises, les autocaristes, le transport aérien, le transport public terrestre. Et évidemment, il y a cette demande, comme on avait eu la demande à l'époque sur les masques, sur les tests. La réponse, et tout le monde le comprend bien, c'est qu'une fois qu'on aura suffisamment de doses pour vacciner massivement, les personnels les plus exposés, vous l'avez dit, les policiers, les enseignants, les personnels de transport,
donc
c'est une deuxième ligne.
Donc vous ne leur avez pas répondu hier?
Je leur ai dit que ce message était porté par leur ministre, évidemment, en interministériel, et que le sujet, mais ils le comprennent bien, ils le disent eux-mêmes, c'est l'approvisionnement massif en doses.
Donc il n'y a pas d'horizon de vaccination pour eux, ils sont quand même en première ligne.
Ils sont en première ligne, ils sont en deuxième ligne, ils ont été incroyablement engagés depuis le début de cette crise, depuis plus d'un an maintenant, et je leur ai redit hier. Vous savez que le président, dans son allocution, a dit qu'il reviendrait bientôt donner de la visibilité aux Français sur tous ces sujets, et avoir un calendrier progressif de réouverture.
Donc,
et donc
aucun horizon de vaccination pour ces premières lignes dans les transports pour le moment.
De date précise, non, parce que si je donne une date précise, je vais immédiatement être pris en défaut. Donc, mais en tout cas, la volonté, c'est évidemment de pouvoir vacciner le plus tôt possible ceux qui sont les plus exposés.
En parlant d'horizon avant-hier, donc le président a évoqué la mi-mai, sans rien dire par exemple, c'est étonnant, d'un éventuel pass sanitaire, d'un travel pass pour faciliter les voyages. Vous n'êtes pas en train de travailler sur cela?
Alors si nous y travaillons évidemment au niveau français avec mon collègue Cédrico, au niveau européen, parce que notamment s'agissant des transports internationaux, c'est au niveau européen que cela se fait. Il y a plein d'initiatives qui ont été lancées par IATA, qui est l'association des transporteurs aériens.
Air France aussi, qui a fait des essais sur certains vols.
Et ça marche, on a les premiers chiffres.
C'est concluant,
effectivement, ça marche. Ça permet d'abord de gagner du temps dans les queues, d'avoir plus de fluidité de circulation, donc moins d'engorgement. Et nous y travaillons au niveau européen. Thierry Breton s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours. L'idée, c'est d'avoir un travel pass sanitaire disponible pour l'été, harmonisé au niveau européen, et qui vous permette d'avoir votre certificat de vaccination, votre test PCR ou votre test sérologique.
Certificat de vaccination également?
L'ensemble des documents qui vous permettront de voyager de façon
fluide.
Donc
ce n'est plus une discussion tabou, qu'il y ait la vaccination, c'est pas seulement le test PCR négatif.
C'est deux choses différentes, parce que le sujet du passeport vaccinal, c'était de savoir si vous pouviez vous déplacer si vous étiez vacciné, si et seulement si vous étiez vacciné. Là, l'idée, c'est d'avoir une application qui vous permet d'avoir tous les documents disponibles, soit votre certificat de vaccination, soit votre test PCR, soit une preuve.
Mais pourquoi vous ne dites pas maintenant clairement qu'il faudra le vaccin pour voyager?
Mais parce que ça se trouve, il faudra le vaccin ou le test PCR.
Mais pourquoi vous dites pas et le vaccin? Le test PCR, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y a pas un grand débat sur les libertés autour du test PCR.
C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais je dis où tout ça. Vous voyez bien que tant qu'on n'a pas
accès. Mais le vaccin pourrait être une condition sine qua non pour voyager.
Le vaccin ou le test PCR. Bref, quelque chose qui va. Mais je ne sais pas d'éluder la question vraiment. Moi, je pense qu'il faut avancer en bon ordre. Là, on a maintenant une vaccination qui progresse assez bien. On sait qu'on aura atteint. Et alors c'est l'objectif de Thierry Breton, le commissaire européen, une forme d'immunité collective au cœur de l'été. Le président a rappelé cet objectif important. Et donc l'idée, c'est oui, de pouvoir se redéplacer pendant l'été en sécurité sanitaire. Ça vaudra dire certainement avoir soit un test PCR, soit une preuve de vaccination, soit une preuve d'avoir vécu le virus et d'être immunisé naturellement.
Jean-Baptiste Gébaré, merci à vous. Je vous propose qu'on poursuive l'échange peut-être avec des questions avec vous, Mathieu.
Depuis tôt ce matin, énormément de questions. Je vois Alexandrie, Romain, Georges,
Anne-Sophie, Armel. On a tout compris sur les déplacements.
Vous allez voir, il y a peut-être quelques cas précis, on va dire, quelques précisions aussi. Il y a des familles qui nous écrivent ce matin, des amoureux aussi, Jean-Baptiste Gébaré. Sur le hashtag Europe 1, vous posez vos questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire?
Parce que pour certains, c'est un véritable casse-tête surtout.
Et c'est dans quelques secondes après le rappel de l'info, 8h28.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
150 points de blocage dans tout le nord de la France, Normandie, Ardennes ou Île-de-France. Opération des agriculteurs en ce jour de départ avant le week-end de Pâques. Mobilisation contre les dispositions de la politique agricole commune en cours de discussion à Allainville dans les Yvelines. Filtrage levé tout à l'heure. Après la fermeture des écoles et des crèches, les assistantes maternelles vont-elles pouvoir continuer à accueillir des enfants? Réponse aujourd'hui, après l'imbroglio d'hier qui avait vu Matignon confirmer qu'elle ne pourrait plus recevoir d'enfants à partir de la semaine prochaine. Affrontement hier dans un quartier sensible de Pontoise dans le Val-d'Oise. 2 morts et 3 blessés selon le dernier bilan. C'est le vol d'un deux-roues qui aurait conduit à ces rixes entre des membres de la communauté des gens du voyage et des jeunes du quartier. Le déraillement d'un train à Taïwan aujourd'hui. Plusieurs dizaines de personnes seraient décédées, d'autres encore coincées dans les rames. Le train aurait heurté un engin de chantier qui a glissé sur les voies à l'entrée d'un tunnel.
Merci Marion Calais, 8h31. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des transports, est avec nous en studio ce matin pour répondre à vos questions sur le hashtag Europe 1. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Jean-Baptiste Djebbari ? On va répondre à Alexandrie, Romain, Winnie et Georges, je pense, avec la même réponse. Okay. Alexandrie, est-ce qu'on a le droit de se déplacer pour fêter Pâques ? Romain, qui nous demande concrètement, est-ce qu'on peut aller passer le week-end de Pâques en famille à plus de 10 km de chez soi ? Winnie, qui nous dit, est-ce qu'on a une attestation doit être fournie si on dépasse les 10 km ce week-end ? D'abord, les questions sur ce week-end à proprement parler.
Alors, la règle, c'est qu'au-delà de 10 km, vous devez avoir un motif dérogatoire pour pouvoir vous déplacer. Donc aller fêter Pâques n'est pas un motif dérogatoire. En revanche, il y a une tolérance, je l'ai expliqué, jusqu'à lundi prochain pour vous organiser. Par exemple, avec votre famille, si vous devez déposer vos enfants chez vos grands-parents, là, vous pouvez vous déplacer, amener vos enfants et revenir. Et il y aura des contrôles à compter de mardi prochain, sur des contrôles beaucoup plus précis encore, sur le motif et le bon respect du motif dérogatoire. Mais la réponse est plutôt non. Modulo, si vous devez vous rendre quelque part pour, par exemple, déposer vos enfants jusqu'à lundi inclus.
Et Georges qui ajoute, quid d'un départ de Lyon aujourd'hui pour aller me confiner dans la Drôme ? Là, il n'y a pas de souci.
Là, il n'y a pas de problème particulier.
Virginie, sur le hashtag Europe 1, beaucoup de questions, hein, Jean-Baptiste Djebbari. Mes enfants peuvent être gardés par leurs grands-parents la 3e semaine de ce confinement. Or, ils habitent à plus de 500 km. Est-ce qu'on peut aller les déposer et les ramener dans 3 semaines ? Dans 2 semaines, du coup ?
Ce qu'on demande aux Français, mais ce qu'ils d'ailleurs ils le font sans qu'on leur demande en vérité, ils s'organisent. Et donc l'idée c'est de ne pas avoir des va-et-vient. Mais si pour cette personne en particulier, la seule possibilité c'est dans 3 semaines, le transport pour déplacement pour garde d'enfants, ce qui est déjà prévu aujourd'hui, est possible. Donc ce que nous n'encourageons pas, ce que nous ne voulons pas, c'est d'avoir des va-et-vient incessants pour ces motifs de déplacement d'enfants. Mais la réponse, si cette personne n'a pas d'autre possibilité que dans 3 semaines d'aller déposer ses enfants et que c'est impérieux pour elle, elle pourra se rendre en cochant sur l'attestation la bonne case avec des contrôles évidemment le cachet.
Et la même question mais dans l'autre sens, c'est celle de Pat qui nous dit « Je suis en résidence en vacances dans le sud et j'y étais avant les annonces du président de la République. Ayant 2 rendez-vous médicaux cette semaine, comment rentrer jeudi prochain chez nous ?»
Bon, d'abord, rentrer chez soi est toujours possible. Vous étiez en vacances, vous devez vous revenir chez vous, c'est toujours possible. C'est vrai quand vous êtes en vacances dans le sud comme Pat, ou de l'étranger ou à l'étranger. Donc rentrer chez soi, c'est toujours possible.
Une question aussi de Geneviève à l'instant qui vous dit, Jean-Baptiste Djebbari, mais comment il y a la règle des 10 km, mais on peut voyager dans un pays européen ?
C'est la question qu'on avait
beaucoup
tout à l'heure.
Beaucoup ne le comprennent pas.
Que vous avez posée, je l'avais dit, hein, c'est une possibilité théorique et en pratique qui est très peu utilisée.
Mais
et
vous comprenez une incompréhension.
Oui, mais j'ai dit aussi que ce n'était pas tranché, on va en discuter
c'est
ce matin.
Ce n'est pas tranché encore aujourd'hui.
On va en discuter ce matin, vous savez que le décret s'applique à compter de demain. On va en discuter ce matin. Et je le dis à Geneviève, de plus en plus de pays européens imposent aussi des restrictions, typiquement des quarantaines. Vous voulez aller en Italie, vous devez faire une quarantaine à destination. C'est très dissuasif. Et donc en pratique, il y a très peu, hormis pour les cas de voyage d'affaires, il y a très peu de déplacements touristiques, disons-le comme ça. Et donc Geneviève doit se rassurer sur l'équité qui existe pour nos déplacements.
Bon, je ne sais pas si elle est rassurée.
Ed vous demande sur le hashtag Europe 1, les TGV vers la Suisse vont-ils être supprimés après le week-end de Pâques ?
Alors, le principe, c'est que les TGV... D'abord, on a moins de TGV, on a 6 TGV sur 10, et les TGV ne vont pas être supprimés dans la mesure où vous aurez toujours des déplacements pour motifs professionnels, pour aller rendre assistance à un bout de proche, des motifs dérogatoires qui existeront. Il y a beaucoup moins de trafic, je le disais, on a 65% de réservations en moins pour le mois d'avril à la SNCF. Donc, j'ai demandé à la SNCF, pour l'instant, de maintenir son plan de transport, et au cours de la semaine prochaine, nous verrons en fonction de la réalité des déplacements, l'ajustement, mais ce sera un ajustement à la baisse. Il y aura moins de TGV pour être concret, mais il y aura des TGV quand même pour les motifs dérogatoires.
Laurent nous écrit, attention c'est précis, nous habitons dans l'Eure, mon fils passe un concours de grandes écoles mardi à Villejuif, il n'a pas de voiture personnelle et le train n'est pas possible pour l'horaire du concours. On dirait un problème de maths de quand on était en primaire. J'ai prévu de l'emmener et de l'attendre dans ma voiture, que dois-je remplir ?
Alors, les concours, les examens sont des motifs dérogatoires, donc il pourra s'y rendre. Et les fameuses attestations prendront en compte ce cas précis. Donc la réponse est oui pour Laurent, c'est ça ?
Et vous aimez les questions précises comme ça, comme les problèmes? J'en ai une autre. C'est CF, c'est signé CF. Mon locataire quitte la maison dont je suis le propriétaire fin avril. Puis-je me déplacer au sein d'une même région, mais à 250 km de mon domicile, pour l'état des lieux et la remise des clés? Merci de votre réponse.
Bah, les déménagements constituent des motifs dérogatoires. Donc la réponse est oui, c'est un événement de la vie qui souvent est prévu de longue date, qui en plus engendre des coûts qui sont considérables. Donc la réponse est oui, les déménagements et ce qui les entoure sont des motifs dérogatoires.
Et Caro qui ajoute, on doit aller réceptionner des travaux immobiliers, quel motif utiliser? C'est la même question ou pas?
Certainement si ce déplacement, si ce rendez-vous n'est pas déplaçable. C'est bien une question que je vais finir par ne pas savoir répondre, forcément.
Il y a aussi une question, est-ce qu'on n'est pas trop malade des règles dans notre pays, monsieur le ministre? Depuis tout à l'heure, vous nous édictez des règles au kilomètre près, à la minute près, pour régler nos vies comme du papier à musique. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
C'est vrai qu'on a beaucoup de règles dans notre pays. Je crois même qu'on a le plus de lois à nous tout seuls. Mais ça, c'est une tradition ancestrale. Peut-être qu'un jour, il faudra d'ailleurs y revenir. On a déjà fait beaucoup de travail de simplification. Mais c'est vrai que la période ne nous y pousse pas forcément. C'est pour ça que moi, j'espère rapidement qu'on va aussi en sortir, pour pouvoir retrouver des temps plus simples et plus heureux.
Alors, vous vouliez des questions précises pour voir si on peut vous bloquer. Anne, est-ce qu'on peut aller chercher notre chiot le 16 avril, hors région et à plus de 10 km?
Alors, je ne crois pas qu'aller chercher son chien soit aujourd'hui...
Je pense que c'est une nouvelle arrivée, je pense que c'est un nouveau chien dans le foyer, le message d'Anne.
C'est donc à ce moment-là que je donne ma langue au chiot et que je vous reviendrai vers vous avec la bonne information pour Anne.
Et pour terminer, je vous ai promis des amoureux. Quid d'un week-end escapade en amoureux, c'est écrit entre guillemets, à 100 km de Paris?
Je crois que chacun a compris que c'est pas l'esprit des règles qui sont aujourd'hui posées par le gouvernement et chacun a aussi compris que ça appelle à la responsabilité individuelle et que certainement ce couple d'amoureux peut faire un peu différemment.
Et qu'en 2021, c'était peut-être plus difficile de faire des rencontres aussi.
C'est vrai.
Merci Jean-Baptiste Djebari d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs sur le hashtag Europe 1. Il y en avait énormément évidemment. Merci Sonia Mabrouk.
Merci à vous.
Il est 8h38 sur Europe 1. Très bon réveil. Vous restez avec nous à suivre notre santé avec Jimmy Mohamed.
La baisse de l'audition touche environ 10 millions de Français et vous allez voir que des solutions simples existent pour prendre soin de vos oreilles.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h. Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé avec le médecin d'Europe 1. Ce matin, Jimmy, vous nous proposez de prendre soin tout simplement de nos oreilles. Hier, c'était les yeux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre audition.
Exactement. Alors, on a tendance à l'oublier, mais l'oreille est un véritable organe dont il faut prendre soin, car plus fragile et même plus fragile que nos yeux. Vous avez dans les oreilles des cellules spécialisées dans l'audition qu'on appelle les cellules ciliées. Et peu à peu, avec l'âge, elles vont disparaître. Et ce phénomène va être responsable d'une baisse de l'audition qui débute vers 50 ans. On estime d'ailleurs en France qu'il y a 10 millions de déficients auditif. Alors, moins bien entendre, ça paraît pas si grave au premier abord, alors que finalement, ça va être responsable de deux choses extrêmement importantes, à mon sens. La première, ça va être l'exclusion sociale. Les personnes qui entendent moins bien en vieillissant, eh bien, peu à peu, restent seules et ne participent plus à la vie en communauté. Et puis, deuxième chose, c'est que lorsque vous entendez moins bien, il va y avoir un remodelage de votre cerveau et ça va entraîner une baisse de vos capacités cognitives et même une baisse de votre mémoire. Et on estime que les personnes âgées malentendantes sont plus à risque d'avoir notamment la maladie d'Alzheimer.
C'est important de le souligner. Quand consulter alors, Jimmy, lorsqu'on commence à entendre moins bien, avant, après, comment ça se passe?
Exactement. Alors, vers 50 ans, je vous avais dit qu'on commence à entendre un peu moins bien. Et le premier signe qui doit vous alarmer, c'est la gêne dans le bruit. La difficulté à comprendre une conversation dans une atmosphère bruyante. Et puis, vous avez d'autres signes qui sont plus évidents, comme le fait de devoir monter le son de la radio ou de la télé. Dans ces cas-là, direction l'ORL pour faire un test d'audition. Alors, sinon, il existe des solutions plus simples et moins coûteuses, comme par exemple une application qui s'appelle Aura, H-O-R-A, qui permet en 3 minutes, grâce à la Fondation pour l'audition, de voir si vous entendez moins bien. On vous demande d'écrire des chiffres que vous écoutez avec des écouteurs, et à ce moment-là, c'est un diagnostic qui n'est pas parfait, mais qui fait du dépistage. Et donc, protéger ses oreilles, c'est aussi notamment se reposer. Et reposer ses oreilles, je vous avais dit hier ou avant-hier qu'il fallait reposer ses yeux. Et bien, de la même façon, lorsque vous êtes en télétravail, par exemple, toutes les 1h30 environ, lorsque vous avez un casque ou des écouteurs, faites une pause de 15 minutes pour vous aérer les oreilles, pour vous permettre justement de les laisser respirer en quelque sorte. Et puis, dernier conseil, attention au volume sonore. On évite de mettre la radio à fond, même si c'est agréable de m'écouter, je le comprends. Un volume moyen suffit largement.
Ou alors, vous pourriez parler moins fort, peut-être, Jimmy.
C'est aussi une solution.
Non, je plaisante, évidemment. À 15h, pardonnez-moi, c'était bête. Sans rendez-vous à 15h tout à l'heure avec Mélanie Gomez, Jimmy.
Oui, alors ce que je vous ai dit ce matin n'était qu'un starter. On va recevoir justement le docteur Didier Boukara. Il est ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Moi, je m'en veux presque ce matin, Jimmy. Vous savez pourquoi ? Parce que ça arrive plein de fois qu'on passe un truc, je sais, comme ça, qu'il faut prêter l'attention. Et je dis aux auditeurs, montez le son, tendez l'oreille. Mais montez-le, mais pas trop fort, et faites une pause d'un quart d'heure au bout d'une heure et demie. Voilà.
Exactement.
Jimmy Mohamed, merci beaucoup. Sans rendez-vous, c'est à 15h sur Europe 1, 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, on les retrouve. Nicolas Canteloup avec Julie, qui s'installe la revue de presque.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Il est encore avec nous, Jimmy Mohamed est encore en studio, notre médecin.
Oui, à propos des problèmes d'audition, je voudrais encore préciser certaines choses, en particulier si vous avez un problème d'audition lors d'une interview de Jean-Baptiste Djebbari. Eh bien, ce n'est pas ce que l'on appelle strictement un problème d'audition. Et oui, je vous parle comme on a des enfants. C'est plutôt un problème de compréhension. Personne n'a rien capté. Alors, vous le savez, Mathieu, la baisse d'audition intervient plutôt à partir de 50 ans. Sauf dans certains cas, comme le président de la République qui a une maladie orpheline et qui, lui, n'entend pas ce qu'on lui dit alors qu'il a à peine plus de 40 ans. Alors, quel est mon conseil ? Mon conseil, tout simplement, reposez vos oreilles. Il faut savoir, tous les 1h30, reposer ses oreilles sur une table de nuit, sur une table de chevet. Voilà mon conseil. Nous en saurons un petit peu plus tout à l'heure dans Sans rendez-vous, je serai bien sûr avec un spécialiste otorino. À vous, Julie.
Génial.
Il a la bien la voix. Fait Jimmy, très Nico. Très bien la voix.
Ah ouais, super,
parfait.
Ouais, très super.
Génial. Bon, on reste là ou on continue.
Oui, c'est vrai. Il faut redire que c'est vraiment génial. Allez, chère Julie. Bonjour à tous. Je ne sais plus qui parle. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour. L'info du jour, c'est cette nouvelle imitation de Jimmy Mohamed dont tout le monde va parler aujourd'hui en France entière et à Europe 1. Mais c'est aussi Jean Castex qui s'est fait crier dessus. Il faut bien le dire, hier à l'Assemblée nationale, ouais. Puis au Sénat. Mmh. Bon, au moins, ça l'a changé de se faire gueuler dessus dans le bureau d'Emmanuel Macron. Là, ça change, c'est l'Assemblée nationale, c'est quand même une autre dimension. Et puis l'autre info, c'est bien sûr la disparition. La disparition, on est tous un petit peu émus, c'est vrai, de Patrick Juvet.
Ah, de Patrick Juvet, oui.
Eh oui, l'inoubliable oui. Interprète du tube Où sont les femmes. Ouais, pardon, c'est... Ouais, pardon, excusez-moi, Mathieu.
Non. C'est qui ?
Ouais, salut, c'est Pierre Ménès,
l'appareil.
Non, mais je voulais dire, tu vois, que j'ai progressé, parce qu'avant, tu m'aurais demandé où sont les femmes, je t'aurais répondu, je cherche pas, elles sont dans la cuisine.
Oh non,
putain. Puis après, je t'aurais roulé une pelle, tu vois. Mais bon.
Classe.
Ben voilà, je voulais dire aux auditeurs que j'ai changé. Ouais, je m'excuse de mon comportement misogyne. Aujourd'hui, je sais que les femmes, ça sert pas uniquement à faire à bouffer. Bon, ouais, mais j'ose le dire, moi, parce que tu vois, j'en ai la culotte. Voilà, c'est mon côté Simone de Beauvoir. Alors, voilà, bon, ben je le dis. Ben enregistre, hein, si tu veux. J'adore les bonnes femmes. Il a bien entendu, Jimmy Mohamed, il y a 3 couronnes d'audition. Hein. Enfin, j'aime les femmes, pardon, oui. Attends, tu sais que ma mère était une femme, hein, ma femme aussi c'est une femme, là c'est la preuve que j'aime les femmes.
Bon, c'est bon, vous n'en faites pas trop quand même. Hein.
Ouais, j'en fais trop là. Non, c'est parce qu'en ce moment, où sont les femmes, ma tante surtout au tribunal, les salopes. Là. Pardon, mes sœurs au procès, ma tante là-bas.
Oui,
quoi.
C'est bon, merci Pierre Ménès, oh là là. Allez, c'est bon.
Bon, allez.
Oh là
là. T'as rien entendu, toi, t'as un problème d'audition.
Le gimmick du jour. Allez, on va revenir sur les mesures mises en place par l'exécutif. Jean Castex, vous avez défendu les mesures du président hier à l'Assemblée nationale.
Oui, bonjour Madame Philippe, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à papy et à mamie, qui vont pouvoir accueillir leurs petits-enfants pour 4 semaines. Ah. Comme les parents ne veulent pas les avoir dans les pattes, ils vont leur confier, voilà, 75 ans, gérer 3 enfants, turbulents toute la journée pendant un mois, c'est quand même une véritable opportunité, c'est formidable, ça rajeunit.
C'est pas fatigant quand même, hein, à cet âge-là.
Hmm? C'est fatigant pour eux, non, vous savez, nos seniors les plus fragiles nous ont déjà quittés l'année dernière.
Oh là là.
Ceux qui restent sont donc... quelque part increvable.
Il y a eu une sélection, quoi. C'est...
Voilà.
voilà, il y a une sélection naturelle. Bravo, monsieur Béliard, de rajouter des petites apartés. Gérer des enfants, vous savez, ça reste une partie de plaisir, quel que soit l'âge.
Oui, oui, alors vous avez défendu les mesures du président à l'Assemblée. Toutes les oppositions ont refusé de voter, car ils se disent en colère à force de ne pas être écoutés lors des processus de décision. Ils se sentaient inutiles, quoi.
Ah, vivi. Mais ils m'ont énervé, tous, là, hein, je dois vous l'avouer. Si, vivi. Non, j'ai failli m'arracher les cheveux qui me restent. Écoutez, c'est... Oui, les quatre. Écoutez, c'est un mauvais procès. Le président de la République les écoute. Simplement, voilà, il ne tient aucun compte de ce qu'ils disent. Mais, doucement. Mais il fait ça avec la majorité aussi, vous savez. Vous croyez qu'il m'écoute, moi ? Moi, pareil. Alors, je suis pas bêtement jaloux, hein. Il ne faut pas l'être, amis de l'opposition. Vous êtes aussi utiles que nous. Hein.
Alors, le président a fixé un horizon de 4 semaines pour cette période difficile. Ça vous semble tenable, ça ?
Tenable, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, nous avons une ligne directrice à laquelle nous nous tenons scrupuleusement. Le chef de l'État dit aux Français que ça ira mieux dans 4 semaines depuis au moins 62 semaines. Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est la preuve d'une forme de constance, de ligne directrice forte. Il ne dévie pas.
Eh bien, quelle fidélité au chef de l'État. Merci Jean Castex.
T'en prie.
Allez, on va en parler avec le président.
Bien entendu.
Oui, pas de problème, on l'entend. On va parler de tout ça avec le président, justement. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour notamment à mon confrère épidémiologiste Jimmy Mohamed et Torino. Faudra qu'on déjeune, cher Jimmy, d'ailleurs. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Bref, oui, revenons à nos moutons. Oui, j'ai effectivement organisé un conseil de défense. Nous avons débattu et après avoir écouté les avis des uns et des autres, j'ai décidé de n'en tenir aucun compte.
On vous reproche beaucoup de vous passer d'avis extérieur, monsieur le président.
De me passer d'avis extérieur. Ouais. Non mais s'il vous plaît, de grâce Julie, arrêtez avec ça. Vous êtes incroyable. Incroyable, vous les journalistes, les Julie Leclerc, Mathieu Béliard, les Stéphane Place. Vous passez votre temps à écrire des papiers pour expliquer que mes ministres sont tous nuls. Et vous me demandez de tenir compte de leur avis. Mais vous plaisantez. Ça vous ferait vraiment plaisir que je les laisse en roue libre.
Bon, écoutez, on va parler d'autre chose. Vous avez finalement décidé de fermer les écoles sur tout le territoire.
Oui, j'ai fermé les 3 ou 4 encore écoles qui étaient ouvertes à Paris, par exemple, et les établissements provinciaux, oui. Mais ça n'a pas été une décision facile, je vous le dis tout de suite.
Quoi ?
Vous savez que les élèves parisiens galèrent un peu, ce sera pas trop dramatique non plus. Ça laisse ainsi une chance aux élèves de province de revenir au niveau.
Oh là là, mais vous entendez ce que vous dites là ?
En revanche, fermer les écoles de province... Bah, si, c'est un vrai souci. Sans école pour instruire des Sochaliens ou des Brestois, ils vont redevenir des animaux, vous savez.
Stop.
Ah, mais dans 3 mois, ils ne sauront même plus se brosser les dents. C'est des coups à faire repartir la peste. On ne va pas se débarrasser d'une épidémie pour se précipiter dans une autre.
L'OMS a tiré la sonnette d'alarme pour l'Organisation mondiale de la santé. La lenteur vaccinale européenne est inacceptable.
Non mais ils sont bien gentils. Mes collègues épidémiologistes de l'OMS sont bien gentils, mais eux... Ils sont dans des bureaux. Moi, je suis sur le terrain, Mme Julie. Moi, je bosse. Je lis des rapports tous les jours depuis 3 semaines. Je surfe sur Doctissimo tous les soirs. Je me suis racheté un docteur Maboul d'occasion. Alors, ils la ramèneront quand ils arriveront à faire sortir le papillon du personnage sans que son nez s'allume en rouge. Voilà. Oui, c'est dans le docteur Maboul.
Allez,
voilà.
Oui, c'est bon, un docteur Maboul.
Oui, mais on apprend beaucoup de choses, vous savez. Chose simple, mais...
Merci beaucoup, Emmanuel Macron. Depuis vos annonces, justement, tiens, le site de la SNCF a été pris d'assaut. Monsieur Régis, vous êtes cheminot, bonjour.
Mais je suis pas content.
Alors,
moi, j'aime bien Brest et Sochaux. Bonjour Julie, bonjour Valgon, tout le wagon. Oui, vous avez vu le succès. Oui, j'essaye de rattraper le coup. On a perdu tous les auditeurs de Sochaux et de Brest.
Ouais, bah oui.
Vous avez vu le succès, ça fait bugger nos Minitel, dernière génération. Ah oui. Alors, déjà, j'ai une bonne nouvelle, on va pas faire grève.
Ah oui,
on est sympa parce qu'on pourra en profiter, vous voyez, pour demander une augmentation 3000%, là, carrément. Ah
bon, d'accord, carrément. Et en vertu de quoi ?
En vertu de quoi ? En vertu que si tu peux pas mettre tes gosses dans un train pour les expédier à grand-maman et grand-papa, tu vas devoir te les goinfrer en télétravail. Hein, va faire l'école pendant que tu bosses, avec des chiens partout dans les pattes. Alors oui, on pourrait faire grève, nous, à la SNCF, je te garantis, tous les parents de France, tous, ils nous donnent ce qu'on veut.
Et vous le faites pas.
Ah. Non, parce que moi aussi, j'ai des gosses. Je voudrais les filer mes beaux-parents, je préfère emmerder les parents de ma femme plutôt que m'emmerder tous les Français. C'est dire si je les aime pas. Oh, les vedettes.
Ah, on a bien compris. Merci, monsieur Régis. Bon, on y va. Pour Patrick Bruel, c'est bon?
Allez-y, faites ce que vous voulez. Les mêmes mots. Préfère Bruel.
Les mêmes mots reviennent sans cesse quand on parle de la politique d'Emmanuel Macron. Macron a fait le pari de ne pas reconfiner. C'est une vraie partie de poker qui se joue entre Macron et les médecins. Qui dit pari qui dit poker dit Patrick Bruel. Ça y est, on y arrive.
Ouais, c'est Julie. Comment ça va?
Bah, ça va,
Mathieu. Et toi, Laurent?
Ça va.
Et toi, Jimmy? Que j'ai fait toutes ces années?
Alors, Patrick, comment vous le trouvez, Emmanuel Macron?
Franchement, il est bon, il est étonnant, il est bon, il est persuadé que les médecins bluffent, donc il joue risqué, tu vois.
Bon, alors, attendez, on va expliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le poker. Bluffer, c'est faire croire qu'on a un super jeu, alors que non. Vous l'avez souvent fait, ça, j'imagine, Patrick?
Ouais, je me souviens, j'étais à Las Vegas en finale, j'étais comme Macron, tu vois, j'avais rien, j'avais pas de jeu, j'avais une paire de deux, voilà, une paire de deux. Pauvre malheureux qu'une paire de deux, j'ai fait monter le tapis et l'autre a cru que j'avais un super jeu. Il a mis 100 000, j'ai suivi. Ce con, il m'a cru.
Et vous avez gagné.
Mais non, j'avais une paire de deux, je te dis. Il avait un carré d'as, je te promets. Donc Emmanuel, je te le dis, je me sens sympa. Le bluff, c'est super, mais quand t'as aucun jeu, il y a aussi une grande chance de paumer, tu vois. Puis si les médecins bluffent pas et que ça coince en réa, ils jouent un peu avec nos vies, Manu. Moi, ça va, j'ai aucune comorbidité, je suis affûté, j'ai 27 ans. Mais si j'étais un chanteur de 62 ans, je serais moins confiant, tu vois. J'en ai marre de ce virus-là. Marre de ce virus-là.
Merci.
Julie, c'était karaoké, là. On pouvait continuer.
Excellent. Bravo, Nicolas.
Et Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. 8h56, il est déjà là. Mais Philippe Vandel, il y a Culture Média qui va démarrer dans quoi? Dans 3 minutes 20?
Exactement.
Vous êtes prêt, Philippe? Tout va bien?
Dans 3 minutes 10 maintenant, parce que le temps passe. Bonjour Mathieu, notre infomédia va s'intéresser au phénomène de la série Capitaine Marlowe sur France 3, vous la regardez. Ce feuilleton qui écrase tout sur son passage, 6 millions de téléspectateurs en moyenne, ils battent TF1 ou la 6, même avec des rediffs. Et ce soir, Capitaine Marlowe va vivre un grand changement puisque le feuilleton change de chaîne, passe sur la 2 et change de jour. Avant c'était le samedi, maintenant c'est le vendredi. On en parle avec Anne Holmes, c'est la grande directrice de la fiction nationale de France Télévisions. Au sommaire également, plus de sport en région, c'est l'objectif d'un nouveau poste créé par France Télévisions pour étendre le sport au niveau local, par exemple avec des matchs de rugby Dax contre Nice. On en parle avec le tout nouveau directeur délégué au sport de la 3. Il s'appelle Fabrice Gol. Et puis, il est l'auteur de polar le plus lu en France, après avoir vendu 3 millions de livres dans le monde. Bernard Minier sera notre invité pour La Chasse, c'est son nouveau thriller.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel. Évidemment, ça commence dans quelques... Allez, maintenant dans 2 minutes 20.
Ouais.
Le temps passe à une vitesse, mon cher Philippe. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller demain et après-demain. Moi, je reviens lundi matin, bien sûr, en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.